Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout en un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion multisite, paiement à table, gestion des stocks, intégration du système de réservation, rapport de vente intégré. Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec. À table avec. Le podcast du magazine Le Chef. C'est dans sa maison bientôt 150-naire que nous reçoit Marc Héberlin. Chantre de la grande tradition culinaire française, héritier d'une des dynasties mythiques de la cuisine, passeur d'histoire, le chef étoilé a pourtant su conserver la simplicité et la convivialité caractéristiques de l'Alsace, région où la gastronomie a été érigée en institution. Tout au long de sa carrière, c'est cette terre alsacienne qu'il a eu à cœur de faire rayonner, en y attirant des clients du monde entier, comme en s'exportant au Japon notamment. Mais aussi en formant au fil des ans de nouvelles générations de cuisiniers qui ont, à leur tour, perpétué les valeurs apprises dans ce berceau de la gastronomie, niché sur les rives de l'île et que l'on espère éternel. Bonjour Marc!
Bonjour!
On est très content d'être à l'auberge de l'île, chez toi aujourd'hui avec un beau soleil, presque en terrasse.
Presque en terrasse.
On va revenir un petit peu, si tu veux bien, sur l'histoire un peu folle de cette maison, qui est une maison, une vieille grand-mère, mais avec tout ce que ça a de bon. Tu vas fêter dans quelques temps les 150 ans de cette maison.
Oui, dans peu de temps, je pense. On n'a même pas calculé jusqu'à présent.
On ne doit pas être très loin. Alors évidemment, on ne va pas revenir très très loin, mais c'est une maison qui a été détruite en 1940 pendant la guerre.
Oui.
Et qui a été reconstruite en 1950 par
c'est
ton père et ton oncle.
Mon oncle, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, on va dire, de cette nouvelle auberge en 1950?
Oui, alors avant, ça s'appelait l'Arbre Vert, avant la guerre. Et puis mon oncle a eu l'idée de l'appeler l'Auberge de l'Île, parce qu'il dit dans chaque village, il y avait des chevals blancs, des aigles noirs, des arbres verts, enfin, il y avait tout, sauf l'Auberge de l'Île, personne n'avait. Et puis on est au bord de la rivière, donc il a eu la bonne idée de la baptiser ainsi. Et donc, mon père a eu rapidement, en 52, je crois, la première étoile. En 57, de bonne mémoire, la deuxième et la troisième en 67.
Mais quand ils l'ont reconstruit, à l'identique.
Pas comme elle était, non. C'était beaucoup plus. Ça s'arrêtait là.
Alors là, les auditeurs
le verront pas. Non, mais elle était beaucoup plus petite. Et puis, c'était une carte. Déjà un peu élaboré, il y avait 2, 3, 4 plats élaborés, le reste était des plats très simples, potage du jour, jambon de Parme, bouchée à la reine, escalope viennoise, et puis papa avait créé 2, 3 plats, dont le saumon soufflé ou la mousseline de grenouille, qu'on a toujours à la carte encore.
Donc ça, c'est pour la partie cuisine, on va dire. Et est-ce qu'en 1950, c'est la taille que ça fait aujourd'hui ou tu as fait des changements,
toi ? Non, on a fait ça en étapes, en plusieurs étapes, sur une quarantaine d'années.
D'accord.
Les derniers travaux ont été faits en 2007 d'abord et en 2017 avec la collaboration de Patrick Join et Sanjid Mankou.
Et à chaque fois, on ajoute des pièces ? Ça s'agrandit systématiquement ?
On a rajouté des pièces, pour donner plus d'espace aux clients. C'est tout, c'est pas pour faire plus de couverts.
D'accord.
Pour donner des différentes ambiances dans les salles.
Parce qu'à l'époque, donc dans les années 50, vous faisiez aussi beaucoup de couverts.
Ah, on faisait beaucoup de couverts, beaucoup plus. On
montait. Plus qu'aujourd'hui ?
Dans les années 50, les samedis, dimanches, c'était 150, 160 couverts.
Ah oui, quand même. Donc 1950, donc depuis la maison a grandi. On a atteint ces 3 étoiles en 67 et. Marc est né en 54. Donc
54.
Finalement, t'es né assez peu de temps après la reconstruction
après,
de l'auberge.
La reconstruction, oui, tout à fait.
T'es dès le départ, on a
dès
envie
le
de
départ,
dire.
J'ai grandi là-haut. Au-dessus, on habitait avec mon oncle, mon père, ma mère, ma sœur.
Ta tante.
Ma tante, ma grand-mère. Ah, tout le monde habitait. Et puis, ce qui était drôle, c'était... Mais c'est un peu la même histoire chez Bocuse. C'était pareil, ou chez les Trois Gros. Et il y avait une salle de bain pour toute la famille.
Ah oui.
Oui, c'était normal, quoi, à l'époque.
À quel moment, finalement, les uns et les autres sont un petit peu partis à droite à gauche ? Vous êtes restés ensemble combien de temps ?
Ensemble, je pense, tous ensemble, vraiment, en habitant jusqu'en 70 à peu près, d'accord. 1970, 75. Et puis après, bon, on a pu acheter à côté, on a pu acheter en face pour faire nos maisons. Mon père également a quitté l'auberge pour traverser la rue et
pas trop loin quand même.
Pas trop loin, il voyait l'auberge depuis sa maison.
Et quand on est dans une famille comme ça, avec une maison historique, une institution, on se dit qu'on va être forcément cuisinier.
Oui, au départ, à l'âge de 10-12 ans, je donnais des coups de main, 12-13-14 ans. Et ce qui m'a attiré vers la cuisine, c'est plus le fait, à l'époque, la brigade de mon père, il avait un cuisinier et 2-3 apprentis. C'était très petit comme
donc
brigade.
Donc là, tu nous dis que c'était ça pour faire 150 couverts
oui,
le samedi.
Oui, ah, mais ouais, c'était... Ouais. Et puis, c'était pas de service à l'assiette. Hein. Tout était au plat à l'époque.
D'accord.
Donc, c'est des serveurs qui avaient beaucoup plus... Tout était servi au plat. Et donc, on envoyait plus rapidement et plus de choses.
Donc, t'as commencé tôt dans
la cuisine. Et à l'époque, ce qui m'attirait
cuisines,
vers ouais. la cuisine, c'était le fait d'entourer quasiment de gamins de mon âge qui étaient apprentis. L'après-midi, on bricolait les mobilettes, on faisait des tours sur l'île. Et c'est ce qui m'a attiré vers la cuisine. Parce que tout gamin, je rêvais d'être garde-chasse.
D'accord.
Ou pilote automobile, parce que j'avais la chance de voir régulièrement Henri Pescarolo qui venait ici chasser avec M. Molteni, qui avait créé les fourneaux Molteni à l'époque, et qui avait la chasse là tout autour du village. Donc je voyais Henri arriver, qui était un peu ma star, que je voyais à la télé.
Donc garde-chasse ou pilote automobile, mais finalement tu pars au lycée?
Oui, alors, en école, à l'école, vraiment, j'étais pas brillant. Donc, moi, je voulais faire un apprentissage et ma mère voulait que je fasse l'équivalent d'un bac. Donc, à l'époque, ça s'appelait le BTH et je l'ai fait à l'école hôtelière de Strasbourg.
Dont tu gardes des bons souvenirs?
Très bons souvenirs, des très bons profs. J'ai encore un contact avec l'un ou deux profs qui est toujours vivant.
Oui.
Voilà. Et puis, le proviseur venait manger. Bon, il a disparu, Monsieur Cocher, mais il a formé des milliers d'élèves un peu à la dure. Et puis, on est tous reconnaissants de sa formation.
Et en revanche, quand tu quittes le lycée, tu ne te dis pas tout de suite, tu viens rejoindre ton père?
Non.
Tu veux un peu faire ton expérience?
Non, j'ai fait un tour chez Trois Gros, chez Bocuse, chez Lasserre, à l'hôtel Airprinz en Allemagne, parce que je voulais apprendre les pâtés, les terrines.
Oui.
Et c'était vraiment, ils avaient un cuisinier extraordinaire pour tout ce qui était terrines et pâtés, ce qui revient peut-être au goût du jour maintenant, mais ce qui a été longtemps oublié.
Et toutes ces expériences, alors là tu nous parles de maisons évidemment aussi familiales, historiques, des institutions.
Et le nôtre, pour apprendre un peu la pâtisserie.
C'était des maisons dans lesquelles tu voulais aller par recommandation de ton père ou parce que c'était les référentes de l'époque?
C'était les références de l'époque. Bon, je rêvais d'aller chez Michel Guérard et chez Roger Verger, mais entre-temps, je me suis marié rapidement et donc je suis rentré au Bercail, voilà.
Donc en 76.
En 76, en novembre 76.
Et c'était, t'étais content de rentrer?
Ah, j'étais content, j'étais ravi de rentrer, de travailler avec mon père. Et j'ai recommencé comme commis de cuisine, après chef de partie, après mon père m'a laissé une place de second, et puis petit à petit. Mais il n'y a pas une date exacte où il a dit maintenant c'est toi le chef.
Ça s'est fait
on
naturellement.
On a toujours travaillé ensemble, main dans la main, et c'est vrai. Même je me souviens sur quasiment son lit de mort, 15 jours avant son mort, je lui montrais toujours les cartes, les nouvelles cartes.
Oui.
Et puis même sur son lit de mort, je suis allé montrer la dernière carte qu'on allait faire.
Et dans les maisons, là, les institutions où tu as passé peut-être rapidement, mais qu'est-ce que tu retiens justement chez Trois Gros, chez Bocuse?
Chez Trois Gros, j'ai retrouvé la complicité entre les deux, entre Pierre et Jean.
Oui.
Et puis c'était vraiment... Et le coup de feu en cuisine, Jean Trois Gros était vraiment impressionnant.
D'accord.
C'était vraiment... Et Pierre avait un palais, et Jean également, un palais extraordinaire. Et c'est là où j'ai vu la première fois l'association des vins et
d'accord.
des plats.
Ok. Et chez
Bocuse. Ouais. Alors, chez Paul Bocuse, j'ai appris donc la rigueur et puis le début de la presse, un peu, malgré qu'on n'est pas très médiatique, nous,
oui.
ici. Mais... J'ai vu ce que c'était, les journalistes qui arrivaient dans ces années, qui venaient de Suède, d'Amérique, du Japon. J'avais jamais vu ça ici. De temps en temps, il y avait un journaliste à l'auberge.
C'était excitant ou ça faisait peur?
Non, ça faisait pas peur. Non, non, mais c'était impressionnant de voir Monsieur Paul. Et de, c'est toujours, je l'admire toujours, et c'est toujours comme un dieu pour moi, et un grand cuisinier. Quand on le voyait travailler en cuisine, rien qu'en épluchant une asperge, ou un travail tout simple, il allait à une vitesse et bottelait les asperges. J'ai plus jamais vu quelqu'un qui avait ce coup de main, ou vider une volaille. Ou...
Ah oui ?
Ah oui, c'était un... Et le matin, j'avais la chance, des fois, comme d'autres à l'époque, d'aller avec lui au marché.
D'accord. Et chez, la, et chez Le Nôtre, tu disais, tu as voulu...
Et chez peu... Le Nôtre, j'ai fait l'école, Le Nôtre.
D'accord.
J'ai, j'ai travaillé en production, mais sur des banquets, des choses comme ça, comme par exemple le Bourget.
D'accord.
Où Le Nôtre avait des chalets, ce qu'ils appelaient des chalets, où ils m'avaient envoyé pour tenir un chalet, où on essorait la salade à côté de Missile ou de Mirage 2000. Ou de...
C'était important pour toi de toucher aussi un petit peu à la pâtisserie à ce moment-là ?
Ah oui, tout à fait. Je suis allé à l'école Le Nôtre pour ça.
Et ça t'a apporté
Bah, ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, parce que à l'époque, la pâtisserie de restaurant restait quand même assez simple. Mm-hmm.
Et donc, quand tu reviens chez chez ton père avec, on va dire, t'as emmagasiné quelques petites expériences, donc ça se fait assez naturellement. Comment on se prépare à, voilà, tranquillement reprendre la main d'une histoire familiale très présente ?
Oui, ça s'est fait naturellement,
en fait,
Il n'y a jamais eu de conflit. On s'est jamais engueulé ni avec mon père ni mon oncle. Un coup de feu pendant le service, mais c'est vite oublié ça. Mais ça s'est fait naturellement.
Parce qu'aujourd'hui, la maison est quand même complètement tenue par toute la famille encore.
Toute la famille, oui, c'est sûr.
Il y a ta sœur,
il y a ma fille, ma nièce,
oui.
Mon neveu à l'hôtel avec mon beau-frère, oui.
Ça paraît quasiment impossible aujourd'hui d'avoir autant de membres d'une famille et que ça se passe bien. Vous, ça paraît pourtant tellement naturel.
Oui, c'est naturel, oui.
Comment ça s'explique ?
Bah, je sais pas, ça s'est fait naturellement.
D'accord.
Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de recette, c'est sûr. Ah, je voulais te dire, chez Lasserre,
ah oui ?
Là j'ai appris l'organisation et l'économie.
D'accord.
Chez déjà aussi les grandes recettes, il y avait partout des grands chefs comme Georges Dumas qui était un ouais. grand saucier. Et là, j'ai vu quasiment une gestion à l'ordinateur, rien qu'avec des petits billets. À l'époque, par exemple, 10 kilos de foie gras arrivaient, on faisait des espèces de longs boudins comme ça, comme des terrines. Et on montait à la comptabilité combien de boudins de foie gras on avait fait. Ouais. Et Madame Lucienne, la secrétaire, contrôlait en disant « Attendez, il manque 100 grammes, là. D'après les bons en cuisine, on a vendu que 50 foie gras. » Et elle voyait tout.
Ah, donc, c'était une organisation
rien que sur les petits bouts de papier. Et quand on prenait du foie gras pour faire une farce, il fallait qu'on mette, on a mis 400 grammes de foie gras pour faire une farce, pour une terrine.
Et quand tu es revenu ici, tu as eu l'impression de pouvoir mettre un petit peu au début, ta pâte un petit peu sur
oui,
des choses
au ou... début, oui, bon, au début, bon, j'amenais ma pâte petit à petit, et puis mon père m'a laissé faire, et il en était, je crois, très fier.
Parce que l'histoire, ton oncle était donc en salle.
En salle, tout à fait.
Ton père en cuisine.
Mon père en cuisine.
Et finalement, naturellement, tu as pris la cuisine
la
et ta sœur la salle.
Ma sœur la salle, voilà, à la suite de mon oncle.
Et après, tu as développé aussi donc, des choses au Japon. Est-ce que tu
oui,
peux nous raconter
a...
pourquoi le Japon et comment ça s'est fait ?
Alors, pourquoi le Japon ? C'est Paul Bocuse qui m'a un peu poussé, obligé à ouvrir au Japon avec M. Hiramatsu, mm-hmm. le groupe Hiramatsu. Paul Bocuse avait déjà 3 ou 4 restaurants avec lui au Japon. Et puis il m'a dit, il faut que tu ouvres au Japon. J'ai dit, Monsieur Paul, non, je ne crois pas. Si, vas-y. Et puis Hiramatsu est venu, il m'a dit, il faut que tu ouvres, signe, il faut que tu ouvres avec lui. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Où tu es au Japon et depuis combien
alors,
de temps ?
Alors, on est à Tokyo, on est à Sapporo et Nagoya.
Et ça fait combien de temps ?
Ça fait depuis 2007.
D'accord. Et tu y vas régulièrement ?
2 fois par an, là. Une fois au printemps, je vais y aller en juin, et puis une fois en automne ou en hiver.
Et c'est un pays avec lequel tu...
Ah, c'est un pays que j'aime beaucoup, et que c'est un pays qui a une culture extraordinaire et un sens et un respect des gens que j'admire, qu'on ne retrouve plus en France ou en Europe même.
Et quand tu fais tes voyages là-bas, tu ramènes un peu dans
des
ta
fois,
cuisine
oui,
des
oui,
choses
des fois, je ramène des choses, là. J'ai un bœuf de Kobe à la carte, et malgré que ce ne soit pas très locavore, mais pour moi, c'est locavore, comme on a 3 restaurants au Japon, et je l'assaisonne un peu à la japonaise, mais pas trop.
D'accord.
Je
ne
veux pas que notre carte ressemble à un restaurant. Mais dans un menu, j'aime bien mettre une touche un peu sur un des plats, un peu exotique, un peu une inspiration d'ailleurs.
Et du coup, de l'autre côté, au Japon, tu fais une cuisine française ?
Au Japon, vraiment, c'est vraiment cuisine française. Je ne m'inspire pas du tout de la cuisine japonaise. Je ne vais pas copier leur cuisine.
D'accord. Et tu as fait d'autres choses ? Tu as développé dans le long de ta
Alors,
carrière ?
Alors, il y a la brasserie des Haras à Strasbourg, que mon fils Maxime dirige. Et puis, depuis qu'on a ouvert, depuis 11 ans maintenant.
D'accord.
Et qui marche très bien.
Ça, c'est dans le sein d'un hôtel, hein, au sein d'un hôtel ?
C'est dans avec le professeur Maresco, le centre de recherche LIRCAD. Donc, on a la brasserie et il y a l'hôtel des Haras qui est dans la même cour.
Et donc, c'est vrai qu'ici, à l'Auberge de Lyon, on a ce restaurant gastronomique et tu n'avais pas de brasserie. Et pourquoi tu as fait une brasserie ?
Oui, ben ça, c'est également Paul Bocuse qui m'a dit un jour, il faut que tu fasses une brasserie. Et puis, le professeur Maresco est venu me trouver, m'a demandé, puis j'ai accepté. Puis c'est vraiment avec plaisir, 10 ans, 11 ans après, c'est un grand succès.
Et tu as plaisir aussi à faire cette cuisine
plus simple ?
Ah oui,
j'ai plaisir totalement. Et le prochain ouvrage qui va sortir aux éditions La Martinière, on vient de terminer les photos la semaine dernière. Il y aura aussi des plats de brasserie.
D'accord. C'est un ouvrage sur la cuisine d'ici et du bistrot.
De la brasserie. Non, il y a une ou deux recettes ou trois, quatre recettes de brasserie.
D'accord.
Que je veux mettre en avant aussi. Parce qu'il faut pas oublier une chose, quand mon père, même jusqu'en 76, 17, même presque jusqu'en 80, tous les restaurants 3 étoiles avaient encore des plats simples.
Oui.
Quand je travaillais chez Trois Gros, il y avait le melon au porto, un demi-melon au porto. Chez Lasserre, il y avait le demi-avocat avec une saucière de vinaigrette.
Oui.
Chez Bocuse, pareil, il y avait le jambon de Parme, il y avait les escargots.
Tu dirais que c'est dans les années 80 ?
Et il y avait juste, après les années 80, je pense que les plats sont devenus plus sophistiqués.
D'accord.
Avant, on avait peut-être 3 ou 4 plats qui faisaient les étoiles.
D'accord.
1, 2 ou 3. Et puis le reste de la carte, il y avait le consommé madrilène, il y avait les classiques, le tourne-d'eau Rossini, il y avait les classiques de l'Escoffier.
Et c'est marrant parce que tu parles souvent de Paul Bocuse. Comment tu as nourri cette relation avec lui, alors que finalement, tu n'es peut-être pas resté très longtemps dans sa maison?
Non, mais... je suis resté une année à peu près, un peu moins d'une année.
Et alors, comment ça se fait que vous êtes suivi?
On est resté... Déjà, mon père et mon oncle étaient proches avec Paul Bocuse. Et puis, l'histoire du village, le jumelage qui s'est fait entre Collongeau, Mont-d'Or et Loizerne, c'était en 68.
C'est votre idée?
C'est l'idée de mon oncle et de Paul Bocuse. À l'époque, mon oncle était maire. Paul Bocuse était au conseil municipal de Collonges. Ils ont dit, il faut qu'on fasse un jumelage. Et voilà, c'est resté. Il y a toujours encore des échanges entre des jeunes, des gens qui viennent ici, des gens d'Illoizerne qui vont à Collonges. Et puis, souvent, il y a une réception à Collonges ou il y a une réception ici pour les Collongeards.
D'accord. Et donc, tu dirais que tu as noué cette relation avec Paul
Oui, déjà. Et puis alors, on s'est toujours bien entendu. Et elle est devenue encore... Et puis, on se téléphonait une fois par semaine, deux fois par semaine. Et puis, quand un jeune décrochait en cuisine... et qu'il avait Paul Bocuse au téléphone, pour lui, c'était comme le curé du village qui avait le pape.
Ouais.
C'était... Mais c'est vrai.
Donc tu t'en es un peu servi.
Et puis il me disait souvent, envoie-moi un Alsacien, j'ai plus d'Alsaciens en cuisine, il me faut un Alsacien.
Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Alsaciens ?
Il aimait bien les Alsaciens, parce qu'on est renommé, je ne sais pas si c'est vrai, pour être rigoureux, professionnel, mais c'est peut-être pas sûr.
finalement, au bout de... Ça va faire donc 50 ans, peut-être, que tu es revenu à la maison, c'est ça ?
Oui, bientôt 50 ans dans la maison, oui.
Ouais. On va marquer l'anniversaire ou tu ne sais pas encore ?
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à ça, non.
Et toi, tu es quelqu'un qui est très jovial, très dans les projets. Qu'est-ce qui te tient comme ça
Mais il y a toujours des projets. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, je pense. Que ce soit du point de vue culinaire ou du point de vue immobilier, ou faire quelque chose. Là, on a un grand projet à venir à Ribeauvillé. Je touche du bois. J'espère que tout fonctionnera bien.
Ouais.
Et puis, mais c'est vraiment un beau projet avec Patrick Join et Sanjit Mankou encore.
Donc finalement, t'as encore plein de choses à faire.
J'ai encore plein de choses et je reviens à Paul Bocuse qui disait toujours, tant que t'as des projets, t'es vivant. Et c'est vrai,
il faut continuer.
Il faut avoir des projets dans la vie.
Et comment justement, tu parlais au niveau culinaire, comment un petit peu tu fais évoluer la cuisine ? C'est quoi ? Parce que moi, je me dis toujours, au bout de 50 ans, peut-être qu'on a moins d'inspiration.
Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a toujours envie de découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux... Là, j'ai remis à la carte un plat que j'aimais gustativement, mais que je trouvais trop lourd, la carpe à la juive.
Raconte-nous, c'est quoi la carpe à la juive ?
Alors, c'est une carpe entière, farcie, qui faisait le jour du Shabbat, et pour pas cuisiner. Et puis, c'était avec de l'œuf dur, de la pomme de terre dedans, une farce très lourde. Mais le goût était exceptionnel. Et là, je l'ai transformé en faisant une petite gelée de carpe, des petites quenelles de carpe, des carpes frites, des choses un peu différentes. Plusieurs assiettes autour de la carpe.
Et l'idée de la carpe à la juive est venue d'où ?
Comme ça, un soir, en me réveillant, je me suis souvenu de ce plat qui avait bon goût, mais qui n'était pas terrible gustativement, quoi. Qui avait bon goût, mais la présentation n'était pas exceptionnelle et le plat était un peu lourd, quoi.
Et alors, si tu nous en cites un autre que tu as fait récemment, comment...
Ah, récemment, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait... Il y a tellement, tellement de choses qu'on... On change la carte tous les 2-3 mois quand même. On laisse les plats phares, les 2-3 plats phares que mon père a créés. Et à côté de ça, tout change suivant l'inspiration. La boîte de sardines qu'on a mis récemment à la carte.
Ça se présente
une boîte de sardines avec du caviar sur une purée de pommes de terre et de poireaux. Voilà, et ça plaît beaucoup.
Et les plats emblématiques de ton papa, qui sont, cite-moi un ou deux exemples.
Alors, il y a la mousseline de grenouille, il y a le saumon soufflé, la truffe sous la cendre.
Et ça, t'as toujours autant de plaisir à les faire ?
Toujours, toujours autant.
Tu les changes un peu ?
Non, là, on ne change rien.
Ça, on ne change rien.
Je garde la même. Il y a juste la taille qui a changé par rapport à il y a 50 ans du plat et le prix.
Naturellement.
Et c'est vrai, le saumon qui, quand mon père l'a créé dans les années... 60, c'était un poisson noble, il n'y avait pas d'élevage. Et il n'était que saisonnier. D'accord. Il durait 4, 5, 6 mois de l'année. Et le reste du temps, il faisait ça avec de la truite.
Ok.
Parce que Pierre Troisgros, en même temps, et Jean Troisgros ont créé le saumon à l'oseille.
On va parler aussi de ta femme Isabelle,
qui
a été à tes côtés pendant longtemps ici.
Toujours, oui. Elle est enseignante, elle a gardé le côté enseignant en ouvrant son école de cuisine où elle insère des tas de jeunes à travers la cuisine avec les mamans de différentes cultures. Elle fait un travail exceptionnel. Maintenant, elle a ouvert à la fonderie à Mulhouse un second point où elle travaille pour des repas pas chers avec des étudiants. Pour des étudiants. Et puis, elle va ouvrir un autre point, toujours à Mulhouse, pour une relation entre les jeunes et les personnes âgées, les EHPAD.
D'accord.
Et je pense que c'est un beau projet. Elle a beaucoup de mérite. Ce n'est pas parce que c'est ma femme, mais elle travaille. C'est incroyable le boulot qu'elle fait.
Et son association s'appelle Épices.
Épices, voilà.
Pourquoi Épices ?
Alors... établissement, je sais plus comment, d'insertion. Elle a trouvé ça épice, voilà.
D'accord.
Ouais, pas professionnel, non, je crois. Non, ça, c'est... Et puis il y a des jeunes qui ont bien réussi. Il y a un jeune Guinéen qui est chez nous et qui en un an et demi est passé chef de parti. Et d'ailleurs un autre, un réfugié tibétain qui était là il y a quelques années, maintenant second au Jules Verne.
Chez Frédéric Anton,
second chef de parti, je ne sais pas, mais
c'est
vraiment...
C'est toujours lié à la cuisine.
À la cuisine, oui.
D'accord. Et donc, il y en a pas mal que tu prends chez toi ?
De temps en temps, oui, certains, oui, qui ont bien fini, tous.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'organisation ici, de tes équipes peut-être ?
Alors,
il y a des gens qui sont avec toi depuis longtemps,
oui,
je crois.
Oui, les maîtres d'hôtel sont là depuis 35 ans, 36 ans. Certains que tu as vus là à midi, d'autres depuis... J'ai des employés depuis longtemps. Jean-Paul est là depuis mon second en cuisine, qui est meilleur ouvrier de France, est là depuis plus de 20 ans. 25 ans. Et puis le second, Guillaume, est là depuis 11 ans. Pascal est là depuis un an, mais était là avant et est revenu.
On revient à l'auberge de Lille.
Pascal Hennig, oui.
Ah oui, le pâtissier, qui est revenu.
Alors, et puis des gens qui restent là assez longtemps, que ce soit en salle, en cuisine, en comptabilité aussi, ils restent tous.
Et tu fais partie des maisons qui font encore beaucoup de couverts. Ça a toujours été une volonté
Parce qu'on est quand même une équipe de 50 personnes et il faut quand même... l'argent est quand même... Je ne suis pas avide d'argent, mais c'est quand même le nerf de la guerre.
Il faut
faire tourner la maison. Et donc, Oui, c'est important. On avait, dans le temps, on faisait beaucoup plus de couverts. On a réduit ça après le confinement à 80, 85 maximum par service, ce qui est toujours encore beaucoup. Mais on est une équipe qui est, on est une équipe de personnes et on est capable de le faire.
Et ce qui est assez agréable, et c'est vrai, c'est que 80, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, le restaurant est fait avec plusieurs
oui,
salles.
Oui, c'est fait à plusieurs salles, donc les gens...
Et plusieurs ambiances, du
plusieurs
coup.
Plusieurs ambiances totalement différentes, et tout en ayant une liaison entre les différentes salles, c'est ce que Patrick Join est arrivé à faire. Et justement, et les gens se sentent pas entassés dans les salles.
Il y a des gens qui demandent certaines salles.
Ah oui, il y a des gens qui ont leur table, évidemment, qui veulent leur table, absolument.
Les derniers travaux remontent à quand ?
2017.
2017.
Les travaux d'esthétique, oui.
Et on se demande souvent dans des maisons familiales comme ça, où il y a beaucoup de membres de la famille, est-ce que c'est facile, justement, d'intégrer des nouveaux collaborateurs ? Comment on trouve sa
place ?
Oui,
les collaborateurs s'intègrent facilement. Non, on n'a pas, là, il n'y a pas de problème.
Les gens ont toujours l'attrait de ces maisons familiales. Parfois, c'est rassurant aussi.
Oui, tout de même. Après le Covid, c'était un peu difficile, je ne te cache pas. Après le Covid, il y a eu une période pour tout le monde très difficile. Pas forcément nous, mais après, c'est revenu.
Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est...
Non, là, actuellement, les brigades sont au complet, là.
Sur la partie culinaire dont on a parlé, avec ces plats hommages, comment on arrive justement à faire une cuisine sans renier le passé, mais en étant dans la modernité ? Est-ce que ce pont-là est facile pour toi ?
Je pense en conservant ces plats, déjà, des fois en les allégeant un tout petit peu, parce que c'est vrai, les années 60, les portions étaient énormes, les sauces étaient beaucoup plus riches, plus beurrées, mais je crois que... je vois de plus en plus les jeunes qui arrivent sont quand même, des fois, ils ont un côté admiratif envers ces plats qui ont fait l'histoire.
Il y a un grand respect là-dessus
Et une envie de les apprendre.
Parce que parfois, on se dit justement que c'est peut-être du passé.
Ça peut être de la routine, mais c'est des plats qui sont quand même difficiles à réaliser, aussi bien dans les assaisonnements, dans la cuisson, parce qu'il y a des recettes plus ou moins qui fluctuent suivant le temps, l'inspiration.
C'est techniquement difficile à faire ?
Techniquement difficile sur la continuité, oui.
D'accord. Et la part de l'Alsace, alors dans la maison, elle est évidente.
Elle est là, oui. Ouais. Et dans la cuisine aussi, il y a des...
Ça se traduit comment ?
Il y a des poissons de rivière, et puis il y a des... Bon, la production de légumes est faite là actuellement depuis tout temps, d'ailleurs, pas déjà par son grand-père, par un paysan du village. Et puis, par exemple, là, en ce moment, il y a les radis au Stogrousse, les radis avant Pâques. Et il y a des tas de produits comme ça qu'on utilise. Il y a la livèche qui commence.
Et tu te fais un devoir de travailler... Alors, tout à l'heure, on parlait de choses qui venaient, le bœuf de par exemple,
oui.
Basie, mais tu te fais un devoir de travailler des produits locaux.
D'avoir un maximum de producteurs locaux, c'est très important. Mais je ne m'interdis pas de mettre un bœuf de Kobe ou évidemment un homard breton qui vient pas d'Alsace ou un turbo. Mais je crois de plus en plus, et puis je le remarque depuis peu de temps, les clients commencent un peu à ne veulent plus se faire imposer qu'un menu.
Oui.
Il y a beaucoup de restaurants et moi, je suis là pour rendre le client heureux. Si le client demain me demande un canard à l'orange, un plat classique, on va lui faire. Si on a 4 oranges et un canard, évidemment, on va lui faire. S'il arrive à midi sans réserver et qu'il veut un plat...
J'imagine que c'est un peu plus difficile qu'un orange et 4 oranges et un canard chez vous.
Mais c'est le fait d'imposer des menus, je trouve que c'est un peu de la dictature culinaire. Les gens veulent choisir. Certains jours, tu n'as pas envie de manger un grand menu.
Donc, toi, l'offre aujourd'hui, donc quand on vient manger...
Il y a la carte et il y a un ou deux menus, évidemment. Mais le client a le choix. Et puis, très souvent, on change même. On met d'autres plats dans le menu.
Donc, toi, tu t'es jamais dit, je ne serai qu'en menu. Ça a toujours été une carte.
Non, moi, c'est pas mon... Et puis, c'est pas mon travail. Et puis, ça deviendrait trop une routine.
D'accord.
De garder un menu pendant un mois, 15 jours... Je fais des menus le soir de réveillon, le soir du 13 juillet au soir. On fait un bal champêtre dans le jardin. Et c'est très joli le 13 juillet au soir.
Il faut venir le 13 juillet.
C'est tout décoré en bleu, blanc, rouge, s'il ne pleut pas, quoi.
Et Tu as beaucoup, alors tu es très proche de la frontière
oui,
allemande.
Oui, on a beaucoup.
La clientèle ici, elle est finalement française et allemande ou elle est, assez, elle est beaucoup plus large
elle est large, oui, elle est très large. Oui, il y a des gens du monde entier. Mais effectivement, le gros de la clientèle, c'est d'abord un noyau vraiment alsacien. Ensuite, il y a les Suisses. Bâle est à 3/4 d'heure.
D'accord.
Fribourg est à 40 minutes. Donc, on a vraiment une clientèle allemande et suisse également.
Et on l'a vu récemment, je crois que le guide Michelin allemand est sorti avec beaucoup d'étoiles.
Oui, il y a beaucoup d'étoiles. Ils ont des très bons cuisiniers.
C'est une clientèle qui est très gastronome.
Qui est très gastronome, oui. Le Français souvent pense que, et moi depuis des années, des dizaines d'années, je trouve qu'en Allemagne, on mange très bien, en Suisse également. Et les gens pensaient, les Parisiens ou des gens, la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace, pensaient que bon, l'Allemagne, il n'y a que la choucroute et les saucisses, mais on en est loin.
On est très, très loin.
C'est très bien.
Oui.
Ils ont des cuisiniers exceptionnels, comme Heiner Finkbeiner à la Traube, qui a son chef Thorsten Michel, qui est exceptionnel. Et bien d'autres. Hein. Eckhard Witzigmann était un élève de mon père et avait été nommé par Christian Mio comme cuisinier du siècle.
D'accord.
Et Eckhart est toujours encore l'équivalent d'un Paul Bocuse pour tous les cuisiniers allemands et autrichiens.
De toute façon, on est un petit peu chauvin, nous, hein, toujours. Hein.
Oui,
c'est pas,
toujours.
C'est pas nouveau.
Oui.
Hein. On a interrogé il n'y a pas longtemps Christopher Coutenceau dans ce podcast qui a eu, entre guillemets, le malheur de perdre cette troisième étoile.
Oui, je comprends pas. C'est choquant.
Tu as vécu, toi aussi, comme Christopher, cette perte d'étoile en 2019. C'était quelque chose, en plus, après 51 ans.
Non, oui, c'était très dur. C'est venu brutalement parce que M. Polenek m'a averti dimanche, la veille de la sortie du guide. Je crois maintenant ils préviennent 15 jours avant. C'est ce que j'avais dit. Il vaudrait mieux prévenir un peu avant qu'on n'ait pas. Et c'était comme un choc quand, en plein service, il était midi et demi. J'ai annoncé à ma sœur, à toutes les équipes. On vient de perdre la troisième étoile. J'ai retrouvé les gars. C'était le pire des services de ma vie. J'avais un sommelier qui pleurait dans le couloir. Un maître d'hôtel m'a dit « Mais monsieur Marc, mais j'ai commencé ici comme commis. J'ai jamais travaillé dans un 2 étoiles. » Et c'est vrai.
Ouais.
Et c'était tout le monde, les seconds en cuisine. C'était horrible.
Et
c'était dur sur le coup.
Comment on accuse le coup qui...
Mais on se remet en question, on se dit qu'il faut remotiver les troupes, c'est ça, et c'est dur aussi bien pour les équipes que pour les clients aussi.
Oui.
Les clients, mais on a eu un soutien incroyable de la part des clients.
Et ça a eu un impact dans tes équipes, dans la cuisine, où finalement les gens ont été très solidaires de...
Les gens sont solidaires, aussi bien les équipes, oui, tout le monde est solidaire, et puis on a remonté les manches pour essayer de la regagner peut-être un jour, mais je sais que maintenant, souvent, c'est des maisons plus petites en taille qui sont choisies de 25-30 couverts, ce que je ne peux pas faire ici.
Bien sûr.
Si je fais ça ici, c'est...
Et alors, il y a une grande phrase d'Alain Ducasse qui dit « On vit bien sans, mais on vit mieux avec ».
C'est ce qu'il m'a dit quand il m'a appelé pour me réconforter. Il m'a dit « Tu sais, on peut vivre sans, mais c'est quand même mieux avec ».
Et toi, justement, quelques années après ça, à 2 étoiles, la maison marche aussi bien.
La maison marche aussi bien, c'est sûr. Du point de vue économique, il n'y a pas de problème. Mais c'est Marc Menot qui m'avait dit ça un jour, il y a très longtemps. Il m'a dit « Tu sais, c'est quand il l'avait perdu,
oui.
Il l'avait perdu, regagné. » Je crois qu'il est reperdu, lui. Je ne suis pas sûr. Et puis, elle m'a dit, tu sais, c'est comme au football. Dans ta tête, tu ne joues plus en première ligue.
Et tu te sens en quelle ligue aujourd'hui?
Non, je me sens dans avant tout, je cuisine pour mes clients et pour faire plaisir à tout le monde. On est là pour faire plaisir. Et je pense que l'auberge a toujours encore une renommée internationale. Et c'est ce qui compte.
Mais c'est un peu la chance de ces maisons-là. C'est
oui.
vrai qu'on peut penser chez Bocuse,
ouais.
chez Bernard Loiseau, chez
ouais,
toi.
Ouais,
c'est...
Ouais.
En fait, il y a un moment où vous êtes tellement... Au-dessus, c'est des institutions, alors il faut...
Oui, mais il ne faut pas se sentir non plus au-dessus de tout.
Tu as raison.
On reste quand même les pieds sur terre, on essaye avant tout de bien cuisiner, de bien servir le client. Je crois que c'est l'essentiel.
Et dans cette maison, justement, familiale de 150 ans, comment on se... Alors, beaucoup de gens de la famille travaillent, comment on se prépare à... Peut-être... Alors, tu as plein de projets et ce n'est pas demain la fin, mais toi qui as vécu une transmission en douceur,
oui.
c'est quoi le... dans 20 ans l'Auberge de Lille ?
Ah, pour le moment, on est juste en train de travailler là-dessus. Et je pense que l'auberge continuera toujours et qu'elle sera là, j'espère, après moi.
C'est un sujet pour
oui,
toi
c'est, ou bah, c'est un sujet important, ouais. C'est sûr. C'est pas facile et vu qu'on est nombreux ouais. pour la succession, c'est pas facile. Et avec du temps de mon père, mon oncle, il n'y avait que ma sœur et moi.
Bon, là, on a démultiplié les
forces. On a démultiplié la chose, donc il faudra un jour prendre des décisions et je pense que j'espère qu'on prendra les bonnes.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, que la maison continue,
mais
parce
oui.
qu'on est, c'est un lieu enchanteur. Marc, il a toujours le sourire aux
mais
lèvres
toujours le sourire.
Et dans les yeux, et c'était très sympa de partager ce petit
merci.
Moment.
Merci.
Marc,
merci
à très bientôt.
Anne, merci. Merci au chef.
C'est gentil. Et longue vie à l'Auberge de Lille.
Et longue vie au chef aussi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.